RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Le confinement, c'est aussi l'occasion de revoir chez soi en DVD ou en VOD d'ailleurs, des succès récents du cinéma. Le film Hors Normes d'Olivier Nakache et Eric Toledano est disponible à la vente et à la location en ce moment, hein.
Oui, vous avez été 2 100 000 l'automne dernier à aller savourer en salle cette chronique qui mêle, comme souvent hein, chez les réalisateurs d'Intouchables, la tendresse, le rire, l'émotion, mais aussi de vrais sujets de société. Hors Normes, c'est l'histoire de deux bénévoles, Vincent Cassel, Reda Kateb, l'un engagé auprès de jeunes autistes, l'autre aux côtés de jeunes des quartiers, chacun essayant de relier en fait ces deux mondes pour n'en faire qu'un. J'ai demandé à Eric Toledano comment lui et Olivier Nakache étaient sortis de cette aventure de vie, d'accord, mais aussi de cinéma.
C'est peut-être le film qui nous a, Olivier et moi, le plus traversé physiquement et moralement. C'est-à-dire que c'était risqué, je crois qu'on a eu peur de, non pas de pas être à la hauteur, mais d'avoir le regard de toutes ces personnes qu'on décrit, que ce soit les éducateurs, que ce soit les médecins. On en parle en ce moment avec le personnel soignant, d'être digne de ceux qu'on a vus et qu'on a admirés par le dévouement et la force et la soif de collectif qu'ils ont. Donc, au fond de nous, avec Olivier, quand on commence un sujet, on rêve que ça puisse bouger les mentalités, que ça puisse changer les choses et que ça puisse trouver de l'écho. Le film a trouvé son public alors que le sujet aurait pu être un peu rebutant. Les politiques de Macron au Parlement, puisqu'on a fait une production à l'Assemblée nationale et au Sénat et à l'Élysée, ont vu le film et on a alerté les personnes qui s'occupent de ce domaine-là avec les médecins, avec les associations. Donc en vérité, si je suis honnête, c'est une fierté.
Alors on le sait, le confinement n'est facile pour personne, mais pour les autistes, leurs familles et ceux qui s'en occupent, c'est encore plus compliqué.
Ah oui.
Le président de la République et le gouvernement ont assez tôt annoncé des mesures spécifiques pour rendre les choses moins difficiles et sans doute plus supportables.
C'est pas du tout la même chose de vivre dans un appartement avec un enfant qui peut être violent ou agressif et qui a besoin d'espace qu'avec un enfant dit normal. Donc ça a été bien accueilli. Heureusement, ils ont mis pareil, les éducateurs n'avaient pas de masque. On a suivi ça, on a essayé de trouver des solutions. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est Hors Normes qui est au milieu de ça, mais je pense que le travail des associations et la sensibilité du président et de la secrétaire d'État a dû jouer en la faveur du fait qu'ils aient quand même trouvé des aménagements particuliers pour cette catégorie de la population.
Moi, je vous le dis, évidemment, ce film a aidé concernant la cause de la prise en charge des autistes et de leurs familles. Alors, est-ce que Toledano et Nakache ont des projets, Stéphane ?
Oui, l'un concerne la télé avec une série sur la psychanalyse, encore en montage, co-réalisée avec d'autres metteurs en scène. Ça sera diffusé en janvier sur Arte. Il y aura notamment au casting Reda Kateb, Pio Marma et Mélanie Thierry ou encore Carole Bouquet. Mais en effet, le tandem pense à son 8e film de cinéma et je dirais qu'il y a même comme une urgence à s'y mettre.
Moi, je pense très sincèrement que la fiction va nous aider à passer ce moment-là. Parce qu'on l'a vécu tous de façon très individuelle et qu'à un moment, on va avoir besoin de se reconnaître dans les réflexions des autres, dans les impressions des autres. Je pense beaucoup aux salles du cinéma. Je me dis que c'est quand même l'endroit qui fleure la bonne nouvelle parce que le jour où ça va réouvrir, c'est que la vie normale va reprendre et qu'il va falloir justement aider les exploitants qui vont se retrouver dans une situation particulière, que les gens ont développé une habitude de regarder les plateformes, mais que le cinéma, rien n'est comparable à cette émotion collective. Donc, il va falloir aller un peu au combat et aider nos amis des exploitants. On avait en tête de faire une comédie parce que de temps en temps, ça nous fait du bien. Mais la période nous y enjoint encore plus. Voilà.
Alors, en attendant ce prochain film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, Revoyez Hors Normes, film RTL, disponible en DVD chez Gaumont et en location achat sur vos plateformes habituelles.
Merci beaucoup Stéphane. Bonjour Monique Younès.
Bonjour.
Vous voulez nous parler ce matin des infirmières ?
Ben oui, nous leur disons merci tous les soirs en les applaudissant à 20h et j'ai voulu savoir comment elles étaient représentées dans l'art en général et dans les arts en particulier. Et j'ai découvert que la première infirmière de l'histoire de la littérature n'est autre que Hélène, la fille de Zeus, dont Homère raconte les exploits dans l'Iliade et l'Odyssée. Vous savez, devenue reine de Sparte, Hélène était considérée comme la plus belle femme du monde. Offenbach lui avait d'ailleurs consacré son opéra, La Belle Hélène.
La blonde fille de Léda, j'ai fait quelque bruit dans le monde, Thésée, Arcas, etc.
Opéra dont le livret nous raconte comment Hélène fut enlevée par Paris, le prince troyen.
Et c'est pour la reprendre que commença le conflit le plus meurtrier de l'Antiquité, autrement nommé la guerre de Troie.
Oui, c'est de retour de captivité que Hélène, toujours aussi belle, se rend utile à sa patrie et à ses soldats en confectionnant une boisson à base de népenthe. C'est une plante qui, selon la légende, apaise l'irritation, calme la douleur, chasse les soucis et efface le souvenir de tous les maux. Et c'est donc à travers les mains miraculeuses de la belle Hélène que le poète Homère livre à la littérature le premier récit d'une anesthésie chirurgicale. Vous pourrez d'ailleurs voir dans les collections du musée du Louvre une scène d'Hélène soignant les soldats.
Immortalisée sur une terre cuite, je n'en doute pas. Alors, est-ce que ma Monique est toujours avec nous? Est-ce que nous avons notre petite panne matinale? Oui, elle est revenue. Monique?
Allô?
Oui, on vous a parfaitement entendu. On s'est terminé sur la terre cuite.
Est-ce que je suis là?
Mais vous êtes magnifique. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On évoque le Moyen-Âge et la Renaissance maintenant? Ah, ça y est, elle est revenue.
Mais ce sont des dames de la noblesse qui tiennent le rôle d'infirmières. Elles accueillent et soignent les malades, les blessés dans leur château, et certaines accompagnent l'armée lors des croisades. Et en France, la plus célèbre de ces infirmières, c'est Sainte Geneviève, une fille d'aristocrate, qui, comme Jeanne d'Arc, a sauvé Paris de l'invasion d'Attila. Aujourd'hui, c'est la patronne de notre capitale, Sainte Geneviève, et sa légende se nourrit des scènes où elle porte secours aux malades, scènes reproduites en sculpture, gravure, peinture et vitraux. Même la plus belle montagne de la capitale porte son nom.
Et elle a fini dévorée par les lions, Geneviève, ou je rêve? Non? Ah bon, donc c'est moi. Bon, alors, la fameuse montagne Sainte-Geneviève, mais, dans l'histoire moderne.
Oh, non, mais excusez-moi. Comment vous êtes?
Non, mais je l'ai confondu avec une autre, je vous prie de m'excuser.
C'est pas Blandine?
Oui, c'est Blandine, c'est juste. Bon, dans l'histoire moderne, l'infirmière a souvent été représentée, elle aussi.
Ben oui, nous avons l'infirmière attentive, une peinture de Chardin qui date du milieu du XVIIIe siècle. Mais l'âge d'or de la représentation des infirmières, c'est la guerre de 14. Les artistes et les écrivains se disputent le personnage, comme les Grecs et les Troyens se sont disputés Hélène. Et le musée de l'armée aux Invalides possède l'ambulance de la gare de Poitiers. C'est un chef-d'œuvre du genre qu'Henri Gervex a peint en 1915. Mais les peintures les plus célèbres d'infirmières du XXIe siècle sont celles de l'artiste américain Richard Prince, qui s'arrache à des dizaines de millions de dollars. Elles avaient d'ailleurs inspiré le couturier Marc Jacob pour le défilé printemps-été 2008 de Louis Vuitton, un de ses plus mémorables.
Bon, et aujourd'hui, Monique, alors?
Vous savez, depuis le confinement, ce sont les street artistes et les web designers qui s'emparent des infirmières. Ces derniers customisent la Joconde en infirmière avec sa seringue et son stéthoscope. Ils font un tabac sur les réseaux sociaux. Et cette histoire arrive de faire porter des masques à tout le monde. C'est pas une manière pour tout un chacun de jouer à l'infirmière? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous posez la question et vous donnez déjà la réponse. Merci infiniment, cher Monique. On va tout de suite retrouver Anthony Martin. Bonjour, Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bon, c'est la pépite musicale du jour et comme d'habitude, elle sort de votre discothèque.
Voilà, je vous emmène faire un tour dans un vieil album de la chanteuse galloise Shirley Bassey. Alors rappelons-vous toute chose qu'elle a une place particulière en plus dans l'histoire de la musique. Elle est la seule à avoir chanté 3 génériques de James Bond. On les rappelle, Goldfinger, Les Diamants sont éternels et Moonraker. L'album de Shirley Bassey qui nous intéresse est sorti en 1975. Il s'appelle Good, Bad but Beautiful et c'est le morceau d'ouverture que je vous propose d'écouter. À cette époque-là, deux versions en anglaise de la chanson d'une jeune française circulait dans les maisons de disques à l'étranger. Les chanteuses Kiki Dee et Olivia Newton-John sont emparées, tout comme Pete Townshend des Who, qui en a proposé une version live. Cette chanson, c'est Amoureuse de Véronique Sanson. En 1975, Shirley Bassey l'enregistre donc à son tour et à sa façon. C'est notre pépite du jour. Amoureuse par Shirley Bassey devient Emotion.
I'm running out of ways of making you care. Hard as I try, you know it just isn't fair. For all I give, I'm only getting old. And when I think I'm finally back in control, then you stumble in, and I am tumbling back to where it began. 'Cause you can spread my wings and send 1,000 dreams to flood 1,000,000 streams with emotion. And you can fill my night
Shirley Bassey, sa reprise de la chanson Amoureuse de Véronique Sanson dans un album sorti. Oui,
elle en fait toujours un peu beaucoup, Shirley Bassey.
Voilà, c'est ça. Voilà. On n'est plus du tout sur les Champs-Élysées, au soleil levant, là où Véronique Sanson a écrit cette chanson sur un bloc-notes, hein, en conduisant son auto Bianchi décapotable. Non, non, là, avec Shirley Bassey, vous avez raison, on est plutôt à Las Vegas, en robe pailletée, avec cordes et trompettes. C'est un peu grandiloquent, avec une montée en puissance bien dosée, façon musique de James Bond, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Véronique Sanson m'avait confié un jour que c'était pas sa reprise préférée, voyez-vous. Mais, c'est une rareté que j'avais envie de partager avec vous.
On la comprend, mais c'est la définition même d'une pépite qu'on a découverte grâce à vous.
Exactement.
À demain matin. Merci, Anthony. Bonjour, Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour, tout le monde.
Alors, je note que la carte au trésor est ce soir en Champagne, sur la 3.
Oui, et le présentateur Cyril Ferraud avait eu la chance de terminer avant le confinement. Il a également la chance pour son jeu quotidien Slam, puisqu'il a du stock, lui, jusqu'à fin mai. C'est le seul, c'est toujours ça de prix, Champagne.
Ça en vlin, qui a du stock. Alors, on peut aussi aller à la Réunion pour voir la feuilleton de la 2.
Oui, sympa.
Mais la nouveauté, elle est sur TF1.
Oui, alors là, c'est à Atlanta qu'on va avec un nouveau feuilleton médical de Resident, l'interne. Alors,
ça me tente beaucoup.
Au départ, je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est déjà vu. Les spécialistes, ou altruistes, ou humanistes, ou affairiste, ou idéaliste, ou réaliste, vu et revu tout ça. Eh ben, j'ai été absolument captivée. D'abord, on y court moins que dans Grey's Anatomy, ce qui est un avantage. Ensuite, c'est une critique particulièrement étayée du système de santé américain. Enfin, on découvre que Conrad Hawkins, le héros si arrogant, est vraiment attachant. C'est un chevalier blanc. Ce que ne perçoit pas immédiatement le jeune médecin d'origine indienne Devon à son arrivée à l'hôpital Chastain, donc à Atlanta. Il est d'abord logiquement ulcéré par le comportement de ce chef qu'il juge brutal et déplacé. Il va donc tout de suite le dire à l'infirmière Nick.
Excusez-moi, infirmière, je veux un autre résident. Le mien est ingérable.
Tu es avec Conrad ?
Oui, je veux quelqu'un d'autre maintenant.
Imagine que ta voiture fait un drôle de bruit. Tu la conduis chez le garagiste et le type qui te reçoit est sympa, poli. Pendant 2 jours, il fait tout ce qu'on lui dit de faire dans le manuel. Puis il te dit que ça va te coûter dans les 1 000 $ de plus, tu augmentes le plafond de ta carte. Et en rentrant chez toi, devine quoi ? T'entends le même bruit. Deuxième solution, tu conduis la même voiture avec le même bruit dans un autre garage et celui qui te reçoit est grossier, arrogant. Mais il resserre un boulon, problème réglé.
Ça n'a rien à voir avec ça.
Non, parce que ta chère voiture n'en mourra pas. Observe et apprends. Conrad, c'est celui qui resserre le boulon.
Elle, c'est Emily Van Camp, celle qu'on avait déjà vue dans Revenge. Je l'aime énormément. Et le héros Conrad est lui incarné par un ancien tennisman, donc au nom imprononçable, comment vous dites, Matt Czukraj, moi je dis. Voilà, à noter que chaque épisode commence par une scène choc, mais vraiment choc, rien de chic, c'est absolument sidérant. Enfin, très très bonne surprise, 21h TF1, c'est la 3e saison aux États-Unis, elle a été dispendue évidemment pour cause de pandémie, mais vous Yves, forcément vous regarderez un replay, parce que vous ce soir vous serez sur
chef.
M6, devant Top Chef, raccourci, qui commence par une spécialité que je ne ferai jamais, je l'ai dit les autres non plus, hein. C'est un plat salé avec du chocolat du chef Alexandre Mazzia, comme le chocolat d'anguille fumé et pimenté. Et alors, pas de bol pour le coach Philippe Etchebest. J'adore cette séquence. Ces deux poulains détestent tous les deux le chocolat.
Ah, c'est drôle.
S'il te plaît. Ça va être chaud, hein, chef, hein, quand même. Chocolat, ouais. C'est déjà, c'est pas un produit que j'affectionne beaucoup. Je suis pas hyper inspiré, quoi.
Oh là là. Alors, on est pas dans la merde.
Alors, parle-moi un petit peu de ta recette.
Je déteste le chocolat.
C'est décidément. Sérieusement, que mes deux candidats n'aiment pas le chocolat, il faut que ça tombe sur moi, vraiment.
Enfin, si vous aimez, alors donc moi j'adore, oui, je ferai jamais évidemment. Rien de tout ça, non. J'en mangerai même pas non plus,
non,
mais
on
j'adore.
On est heureux de les voir primés.
Enfin, ah mais oui, vous pouvez pas savoir. Même raccourci, c'est formidable. Enfin, si vous aimez la musique, rendez-vous à 23h30 sur la 3 pour Renversant le concert des confinés, c'est le titre. J'allais là aussi à reculons, bon, faut voir. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ces duos, ces trios avec des artistes confinés qui ont voulu pousser la chantonnette quand même tous ensemble. Michel Jonas, Yael Naïm, Les Frangines, Kirenan, Kali, Tété, Team Dup, Gauvin Serre, Boulevard Désert, Claudio Capéo et aussi Julie Zinati avec Tom Leb.
Oui.
Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne voudrais pas refaire le chemin.
C'est franchement une bonne surprise. En 60 minutes, tout est plié, c'est très bien, ça prépare à la nuit.
Oui, c'est d'elle, absolument.
Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs.